Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. 7h45, Elisabeth Martichoux. Vous recevez le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. On en parlait à l'instant avec François Langlais. Est-ce que les patrons n'ont pas trouvé le bon filon pour licencier avec la rupture conventionnelle collective créée par la loi travail?
Il n'est pas question de savoir si c'est un bon filon ou pas. Il est question de savoir si c'est efficace. Ce que l'on peut retenir du cas Pimki, c'est que, contrairement à ce qui avait été dénoncé, beaucoup notamment dans le cadre du débat parlementaire qui s'est tenu, puis dans le débat public, c'est que la rupture conventionnelle collective n'est pas un plan social déguisé et que, très concrètement, si les syndicats ne signent pas un accord majoritaire, eh bien, il n'y a pas de rupture conventionnelle. C'est donc la preuve qu'il y a un équilibre dans les ordonnances travail qui ont été défendues par Muriel Pénicaud, qui ont été ratifiées par le Parlement, entre d'un côté la liberté des entreprises de pouvoir embaucher ou débaucher quand le carnet de commandes est moins bon, quand il y a des réorganisations nécessaires, et en même temps la protection des salariés, puisque je le rappelle, c'est soumis à un accord majoritaire, c'est soumis au fait que le salarié soit volontaire, et c'est contrôlé par l'administration du travail.
Donc c'est pas un dispositif qui facilite le licenciement?
C'est un dispositif qui permet de mettre de la fluidité d'un côté, mais qui n'oublie pas la protection. C'est dans cet équilibre qu'Emmanuel Macron avait construit son programme présidentiel. Le libérer et protéger trouve là une incarnation très concrète.
On verra donc quel avenir aura ce dispositif. Il a déjà pas mal de succès en tout cas. Il y a une petite curiosité dans les ordonnances de la loi travail, publiées le 30 décembre, que je voulais vous soumettre. Le Canard Enchaîné rappelle que dans le décret d'application, figure 5 modèles de lettres extrêmement détaillé, et en effet, pour aider les patrons à licencier. Ce sont des modes d'emploi que vous fournissez aux patrons. Pourquoi ?
Mais c'est simplement que, vous le savez, le Code du travail français est un code du travail important, qu'il y a beaucoup de procédures qui sont faites devant les tribunaux et que l'objectif, c'est de simplifier la vie à la fois des entreprises, de simplifier aussi les procédures qui peuvent être engagées et de simplifier aussi la compréhension pour les salariés, pour tout citoyen, de textes qui sont objectivement aujourd'hui incompréhensibles. Vous savez, Elisabeth Martichoux,
il n'y a pas dans le journal officiel les mêmes armes épistolaires ou juridique mise à la disposition des salariés.
Il n'aura pas échappé à votre sagacité qu'on fait les choses différemment et que l'objectif de la loi, c'est qu'elle soit compréhensible pour tout le monde et que jusqu'à présent, on avait quand même un code du travail qui était incompréhensible parfois pour les entreprises et très souvent pour les salariés qui ne comprenaient pas non plus les protections dont ils bénéficiaient.
Ce sont des modèles de lettres de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, pour motif disciplinaire,
j'ai
pour
bien
motif
compris.
Économique. Vous leur tenez la main, vous seriez des avocats qui en auraient demandé.
Nous ne leur tenons pas la main, nous donnons les moyens.
De les border juridiquement pour qu'ils ne soient pas ensuite contestés par les salariés, que ce ne serait pas différent.
Nous ne leur tenons pas la main, nous expliquons, nous faisons de la pédagogie et nous donnons les moyens aux entreprises de mettre en place les dispositifs qui sont prévus dans la loi et aux salariés également, bien d'en prendre pleinement connaissance. Vous voyez que rien n'est caché, tout se fait de manière très transparente.
Qu'est-ce que vous dites aux
Elisabeth
salariés qui se disent on aide les entreprises et moi on m'aide pas, moi aussi j'ai besoin de simplification.
Mais nous leur disons tout simplement que là, et l'affaire Pimki en est la démonstration, qu'ils sont protégés par leurs organisations syndicales et que dans tous les cas, s'ils ne sont pas volontaires pour un départ, il n'y aura pas de départ et donc pas de licenciement.
Ça ne vous paraît pas déséquilibré. Le rapprochement des prisonniers corses et le transfert sur la seule prison de Lille à Borgo est possible et à l'étude par la chancellerie.
Écoutez, la question du rapprochement des prisonniers...
C'est Mme Gouraud, la Mme Corse, qui l'a dit hier.
C'est bien. La question du rapprochement des prisonniers est une question qui est ancienne et qui s'étudie au cas par cas.
Elle est possible, dit-elle.
Et qui s'étudie au cas par cas.
Elle est possible et à l'étude, vous confirmez?
Elle est possible et à l'étude et elle s'étudiera au cas par cas en fonction des différents types de prisonniers.
Le dirigeant nationaliste, justement, Gilles Séméoni, a salué cette déclaration, considérée comme un progrès. Et il a précisé, aucun prisonnier politique ne doit être exclu de ce rapprochement.
Il n'y a pas, Elisabeth Martichoux, en France, de prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques au Venezuela, il y a des prisonniers politiques dans d'autres pays. En France, vous avez des criminels qui ont été condamnés pour des crimes de sang et qui purgent les peines pour lesquelles ils ont été condamnés.
Alors, ce qu'il veut dire par là, vous l'avez compris, c'est que, par exemple, Ivan Colonna, et c'est pas un petit exemple, doit aussi être concerné par cette étude qui est faite à la chancellerie.
Écoutez, à nouveau, ça se fera au cas par cas. Je ne dispose pas de l'information pour savoir si la chancellerie étudie ce cas-là précisément.
Vous ne savez pas combien seraient concernés?
Non.
Ouais. On verra donc ce que ça donne. En tout cas, c'est perçu comme un progrès, une espèce de réponse aux succès électoraux des nationalistes, c'est ça ?
Écoutez, ce sont des discussions qui sont anciennes. Le rapprochement des prisonniers qui ne sont pas liés uniquement à un scrutin, dont je rappelle que c'était avant tout un scrutin local et non pas, comme d'aucuns aimeraient le faire croire, un vote sur l'indépendance ou l'autonomie. C'est un scrutin local avec des enjeux locaux importants pour les habitants de Corse, qui sont le développement économique, les transports, l'accès aux soins, bref, ce qui fait la vie d'une collectivité locale.
Demain, le Premier ministre reçoit les associations concernées par la future loi Asile et Immigration.
Mm-hmm. Le ministre de l'Intérieur.
Voilà, la dernière réunion avait été orageuse autour de la circulaire qui autorise les agents de la préfecture à vérifier le statut des personnes au centre d'hébergement. On a déjà beaucoup parlé sur RTL. Est-ce que cette circulaire pourrait être revue, corrigée, ou est-ce que vous la maintenez telle qu'elle ?
Écoutez, cette circulaire a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des associations qui, effectivement, ont quitté la rencontre qui était organisée avec Gérard Collomb et Jacques Mézard. D'autres sont restées. Elle a été signée le 12 décembre. Elle permet simplement au pouvoir public de savoir qui dort où dans des centres d'hébergement. Puisque vous avez des populations qui ont des statuts très différents dans ces centres d'hébergement. Je rappelle que les agents de la préfecture n'ont pas autorité pour sortir ou pour expulser des gens de ces centres d'hébergement, qu'il n'est pas question, comme j'ai pu l'entendre ou le lire, de mettre des familles à la rue dans des périodes par ailleurs hivernales fort désagréables. Et donc, il est simplement question de savoir à qui nous avons affaire dans ces centres pour pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Si on a des personnes qui sont en demande d'asile, qui sont des déboutés du droit d'asile ou autres, il ne me paraît pas illégitime que les pouvoirs publics aient simplement connaissance des personnes qui sont hébergées et qui le sont à juste titre. Parce que je rappelle qu'il y a en France une inconditionnalité de l'accueil et que cette inconditionnalité de l'accueil n'est pas remise en cause par la circulaire.
Elle est appliquée, cette circulaire ?
Cette circulaire
est appliquée. À votre connaissance, elle est appliquée ?
Écoutez, à ma connaissance, une circulaire qui date du 12 décembre, nous sommes le 10 janvier, elle est appliquée.
Elle est appliquée. Alors nous, on a enquêté. Elle ne serait pas encore appliquée.
Je ne sais pas si vous avez réussi à enquêter dans la totalité des centres d'hébergement du pays, mais RTL dispose de moyens d'investigation.
On a enquêté.
Donc je suis très impressionnée, Madame Martichoux.
Combien y a de places d'hébergement en France ?
Il y a 141 000 places d'hébergement et je rappelle donc qu'il y en a 14 000 de plus que l'an dernier. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient faire croire que l'État fait moins ou se désengage. C'est 10% de places supplémentaires par rapport à l'an dernier.
Alors, si elle est appliquée, comme vous le dites, on revérifiera notre vérification. Combien de fonctionnaires vont être dédiés à ce travail ?
Je n'ai pas le chiffre exact de nombre de fonctionnaires qui seront dédiés, mais ce sont des fonctionnaires de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, je le rappelle, et non pas des officiers de police.
La majorité des associations, vous en parliez d'ailleurs à l'instant, Emmaüs, Secours catholique, vont déposer, c'est imminent, un recours devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer l'inconditionnalité dont vous dites qu'elle est préservée.
L'inconditionnalité est préservée. La seule chose que nous devons connaître, vous savez, l'inconditionnalité de l'accueil, ça n'est pas l'indifférenciation. Il est utile de savoir qui nous hébergeons, parce que vous avez des personnes qui sont des Françaises sans domicile fixe, vous avez des personnes qui sont des réfugiés et qui ont tous les titres nécessaires au statut de réfugié, vous avez des gens qui sont en attente de leur titre, et puis vous avez des gens qui sont des déboutés du droit d'asile. Et il est légitime, et la France assume parfaitement sa tradition de terre d'accueil et de terre d'asile pour les gens qui sont persécutés, victimes de guerre. Mais moi, je ne sais pas faire valoir ce droit si d'un autre côté, pour ceux qui ne sont pas éligibles, eh bien, nous ne pouvons pas les reconduire à la frontière.
Il n'y a pas de risque juridique, à votre avis, pour que cette circulaire
soit... Ce sera au Conseil constitutionnel de l'apprécier, mais à nouveau, c'est fidèle aux valeurs et aux traditions de la République.
La loi sera présentée en Conseil des ministres début février.
Le projet de loi, oui.
Le texte,
et puis il sera débattu ensuite au Parlement.
Quand ?
Il sera débattu au Parlement au printemps.
Avant l'été, de toute façon. Vous tiendrez les délais, il n'y aura pas de recul.
Oui.
Le scandale du lait en poudre Lactalis, on en parlait tout à l'heure, Yves Calvi recevait un représentant du...
Le président de l'UFC que choisir.
Voilà. Et on s'aperçoit que malgré les rappels du fabricant, les produits n'ont pas été forcément retirés des rayons. C'est dans le cas de Leclerc, d'ailleurs Michel Leclerc plaide l'erreur humaine ce matin dans Parisien. Est-ce que les autorités sanitaires se sont suffisamment mobilisées pour protéger les consommateurs dans cette affaire ?
La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes est intervenue dès le 10 décembre dernier.
Elle a les moyens de vraiment contrôler.
Elle a les moyens d'intervenir. La preuve, sur les 150 000 lots, il y a 984 lots qui ont été incriminés. Donc c'est la question des lots Leclerc. Moi, je veux d'abord rappeler dans cette période, il faudra déterminer les responsabilités et ça, ce sera fait avec la plus grande, je l'espère, rapidité et sévérité si les responsabilités sont avérées. Mais moi, je veux d'abord appeler ce matin, je profite de l'antenne que vous m'offrez, le numéro vert 01 71 53 51 20 pour des enfants. Si vous avez des enfants qui souffrent de difficultés, vérifiez les lots. Ce numéro vert, il est utile et c'est la santé des enfants qu'il faut préserver. Les responsabilités seront déterminées. Je rappelle que c'est un délit pénal s'il y a eu une dissimulation.
Agnès Buzyn revient de Chine là, dans les heures qui viennent. Il ne faudrait pas qu'elle intervienne quand même. Il ne manque pas un peu sa parole pour, c'est la dernière question sur ce sujet qui devient un scandale sanitaire.
Il y a la parole, mais il y a surtout les actes. Et les actes, c'est l'intervention dès le 10 décembre de la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes en accord avec les autorités sanitaires.
Benjamin Griveaux, tout terrain, ce matin sur RTL. Bonne journée.
Je rajoute un tout petit dernier avant qu'on se sépare. L'AFP, par une dépêche d'agence d'alerte, nous indique que la présidence de la République française annonce la commande de 184 Airbus A320 par la Chine. Une confirmation et un commentaire. Benjamin
Griveaux. Alors, étant moins chinois qu'une partie de la délégation française, j'imagine que ces 184 Airbus sont effectivement une commande ferme, et un commentaire de l'ancien locataire que je fus de Bercy. Oui. C'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise, pour le groupe, et c'est une très bonne nouvelle pour le pays et pour notre commerce extérieur.
Bonne journée à vous.